Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Serroc.
Donc vous êtes une montpelliéraine, une pure jus.
Ben Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.
Amis auditrices et amis auditeurs de Racontez-nous votre Montpellier, bonjour. L'intelligence artificielle. Ces dernières années, l'usage de ce vocable s'est rapidement répandu et l'utilisation de cet outil aussi. En revanche, la formule « ville intelligente » n'a pas pris place dans le langage quotidien, quoique cet ensemble de techniques, on va en parler, concerne la vie quotidienne des habitants, peut-être plus familier, des dénominations plus générales « ville numérique » ou « ville connectée ». Alors, qu'est-ce qu'une ville intelligente, traduction de « smart city », et phénomène qui peut susciter, bien sûr, emballement comme méfiance? Pour y voir plus clair, j'ai invité Gilles Ngoala. Merci d'être venu au micro de Divergence. Vous êtes professeur à Montpellier Management au sein de l'Université de Montpellier. Vous y dirigez le master Marketing, Innovation et Territoire. Vous êtes également co-titulaire de la chaire internationale CITES, on en parlera, sur les usages et les pratiques de la ville intelligente. Vous avez co-dirigé le livre dont le titre dit bien l'objet, sur le mode interrogatif, ville intelligente ou vie intelligente. Vous proposez donc une approche centrée sur l'humain. Voilà pourquoi j'ai sollicité votre compétence. Pour poser les bases de notre échange, mes deux premières questions. Quelle définition simple donnez-vous de la ville intelligente ?
Alors, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité à votre émission. La ville intelligente, c'est avant tout l'idée d'une ville connectée avec un certain nombre d'infrastructures numériques qui permettraient de mieux piloter la ville, de mieux la gérer sur différents aspects, à la fois la mobilité, la gestion des déchets, la gestion des ressources de type eau et électricité, et ainsi de suite. Donc, l'idée, c'est d'avoir des infrastructures numériques permettant de mieux gérer la ville, d'élaborer également de nouveaux services pour les citoyens.
Gestion, les élus et les services de la ville ou de la métropole, peu importe, gère mieux un certain nombre de services, mais c'est le service rendu aux habitants quand même qui est le bénéfice qu'on peut attendre.
Voilà, c'est le service qui est rendu aux habitants, c'est le service que l'on va mettre aussi, qu'on va délivrer au travers de canaux digitaux, notamment, c'est la préservation également des ressources, source d'économie, mais aussi source de préservation de notre environnement, puisque aujourd'hui on s'est éloigné un petit peu de la notion de ville intelligente au sens ville connectée pour intégrer plutôt l'idée d'une ville servicielle ou d'une ville durable, c'est-à-dire d'une ville qui a un impact positif sur son environnement et sur les habitants et qui apporte du bien-être individuel et collectif aux habitants.
Donc c'est donc très ambitieux, on va regarder ça dans le détail quand même. Alors, avant que vous parliez plus précisément, alors, dans notre question que je suis en train de sauter, qu'est-ce qui vous a conduit, vous, spécialiste du marketing, à travailler sur ce sujet ? Alors, quelle était la source de votre curiosité intellectuelle ou le moteur de votre travail de chercheur ?
Alors, dans le champ du marketing, en général, on travaille beaucoup sur le digital, puisque le digital est quand même au cœur même des pratiques du marketing d'aujourd'hui. Et on s'interroge depuis très longtemps sur les interactions digitalisées via les différents canaux numériques, les réseaux sociaux, tout ce qui a pu se développer dans le temps. Et on a eu l'occasion de travailler sur des sujets autour de la transparence, autour de l'appropriation de dispositifs numériques du point de vue de l'utilisateur. La recherche en marketing aussi s'est beaucoup intéressée à ce qu'on appelle le marketing social, c'est-à-dire un marketing qui n'a pas seulement une vocation lucrative.
De vendre un produit ou un produit, c'est autre chose.
Il ne s'agit pas de vendre des lessives, il s'agit vraiment d'accompagner des changements d'usage et de pratiques des consommateurs, des clients, des individus, des utilisateurs, et ceci avec des objectifs, encore une fois, plutôt sociétaux et pas seulement des objectifs business et lucratifs. L'objectif, c'est par exemple d'inciter les gens à pratiquer de la mobilité douce, à mieux traiter leurs déchets, à se soigner, voilà, donc avec toutes les campagnes de santé publique que l'on peut avoir. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle le marketing social, en tout cas avec un objectif sociétal, et donc allier le numérique avec le sociétal, ça a donné quand même cette idée de travailler sur une ville intelligente.
Le croisement de ces deux approches. Alors avant que vous nous parliez plus précisément de la ville intelligente, vous le savez, racontez-nous d'abord votre Montpellier. À votre tour d'apporter votre part au portrait de notre ville, brossé collectivement par mes invités, par petites souches successives, semaine après semaine. Alors, quels sont ou les lieux d'ici que vous appréciez particulièrement et que vous conseillez à vos amis de passage?
Alors, forcément, l'Écusson. Lorsque je suis arrivé faire mes études à Montpellier, je vivais rue des Étuves à Montpellier.
En 81, si mes souvenirs sont bons.
En 89, oui, c'est voilà, ça. Voilà, juste après le bac, je vivais rue des Étuves. Et je traversais la ville pour aller à l'université, là où se trouve la faculté de droit aujourd'hui. Et je passais à proximité de la cathédrale Saint-Pierre, et je passais également à proximité de la place de la Canourgue. Donc tout ce centre-ville et cet Écusson...
C'est à la fois historique et patrimonial, si ça se dit.
Historique, patrimonial, effectivement. Et donc j'ai une affection particulière pour notamment la place de la Canourgue, que je trouve c'est un endroit assez magique. Et donc j'aime bien m'y retrouver régulièrement pour aller prendre un thé, un café avec des amis.
Alors, deuxième question que je pose donc peut-être à l'habitant là, ou au promeneur. Que pensez-vous des profondes mutations urbanistiques, démographiques, sociales et autres que la ville a connues ces dernières décennies, dont vous avez été l'observateur à coup sûr et peut-être aussi un des acteurs?
Alors, j'apprécie. J'apprécie, je sais qu'il y a beaucoup de critiques sur l'évolution de la ville.
Oui.
On assiste en fait, et c'est pas un hasard aussi si on travaille sur la ville intelligente, à un phénomène mondial qui est ce qu'on appelle la métropolisation du monde. Donc avec des métropoles qui grandissent de plus en plus, qui sont soumises à des crises de croissance et qui doivent essayer de se transformer sur tous les aspects, à la fois sur un plan économique, sur un plan sur le plan des infrastructures numériques et non numériques, sur le plan des services, et donc Montpellier a été vraiment confronté à ça, puisque aujourd'hui on sait qu'il y a à peu près 10 000 habitants de plus par an sur la métropole, et donc le phénomène va en s'accentuant, et il faut essayer de combiner les choses le mieux possible, les articuler. Ce n'est pas facile, ça peut générer, et on le sait, beaucoup
de difficultés
et
pas seulement de circulation
pas seulement de circulation, mais il peut y avoir effectivement un jour où les infrastructures ne suivent pas la croissance de la population, mais on va dire que voilà, tant bien que mal, Les choses se font, et la ville a su, et je parlais tout à l'heure de l'Écusson, qui est quand même un centre patrimonial fort et on va dire ancré dans la tradition, je crois que la ville a su combiner tradition et modernité, et donc cette modernité me semble quand même aussi un élément très positif qui peut nous rendre assez optimistes pour l'avenir.
Très bien. Alors, venons-en à la ville intelligente. Commençons par apporter des précisions sur le livre « Ville intelligente » ou « Vie intelligente » publié aux éditions Istée. Je précise que, quoique fort de ses 269 pages très denses, ce livre est accessible aux non-spécialistes. Alors, quels sont les objectifs et votre équipe, on va en parler, que vous étiez fixé, quelles sont les grandes lignes de contenu? En gros, comment le livre a-t-il été organisé, composé?
Alors... La chaire, c'est donc un projet que l'on a lancé en 2019 à l'Université du Québec à Montréal avec des collègues québécois, et l'idée, c'était de rassembler des collègues en gestion, alors pas seulement en marketing, mais ça peut être en management public, gestion des systèmes d'information ou d'autres domaines, avec aussi des collègues du côté de Montréal qui ne sont pas forcément du champ des sciences de gestion, mais plutôt des urbanistes, qui sont des philosophes, qui sont des sociologues,
qui travaillent
sur la ville, qui travaillent sur les problématiques à l'origine de mobilité. puisque la ville de Montréal est aussi confrontée à des gros problèmes de mobilité, hein, avec la météo en plus, on va dire, si on compare à Montpellier. Et donc, lorsqu'on a lancé cette chaire, l'idée, c'était justement de créer des effets de synergie, de pouvoir comparer Montpellier et Montréal, qui sont toutes les deux confrontées à ces enjeux de croissance et de transformation. Donc, il y a, par exemple, à Montréal, le quartier international qui teste différents projets qui allient numérique, mais aussi usage. Et l'un des enjeux, c'était de comprendre comment on pouvait modifier les usages des populations, leurs pratiques au quotidien pour rendre la ville plus intelligente. Et donc, c'est l'idée que l'humain, nous tous, en tant que citoyens, nous ne sommes pas passifs dans la ville, nous sommes des acteurs de la ville, c'est nous qui la rendons intelligente au travers de nos propres actes, au travers de la manière dont on travaille, dont on bouge, dont on organise notre vie finalement dans la ville. Et donc on ne peut pas attendre toujours les acteurs publics qui prennent toutes les décisions. Je crois que aussi l'humain doit prendre sa part.
Ça, c'est le fil conducteur de livre sur lequel on va bien sûr revenir. Voilà. Très bien. Alors, ce livre, donc, qui sert de guide à nos échanges, comporte deux grandes parties. La seconde, intitulée « Quel mode de vie citoyenne ?», point d'interrogation, décrit les nombreuses fonctions de la ville intelligente, vous les avez évoquées, donc habiter, se cultiver, consommer, se déplacer, voyager, se soigner, apprendre, ainsi que se nourrir, chapitre qui décrit la démarche de la ville de Montpellier avec la future cité de l'alimentation. Et quels sont les points saillants de ce projet porté par la ville et auquel vous êtes intéressé sous l'angle de la ville intelligente ?
Alors, ce sont des collègues qui ont plutôt travaillé sur le sujet, qui travaillent notamment sur l'alimentation étudiante. À Montpellier, on sait très bien qu'il y a beaucoup de précarité chez les étudiants aujourd'hui qui ont du mal à se nourrir, à manger correctement. Et donc, on a, y compris dans nos villes, ce qu'on appelle des déserts alimentaires, c'est-à-dire des lieux où on a un peu de mal à avoir une bonne nutrition, des produits de qualité, des produits qui sont issus de circuits courts, des produits aussi qui sont accessibles financièrement pour la population. Et donc, ce projet de la cité de l'alimentation est justement un projet qui vise à répondre à cette demande de la population et assurer que justement l'alimentation soit à la hauteur des exigences des différents consommateurs, mais aussi qu'on puisse être capable de délivrer une bonne consommation, une bonne alimentation, puisqu'on le sait, l'alimentation est intimement liée aussi à la santé et aussi indirectement à la cohésion sociale.
Très bien. Alors, on va regarder maintenant les composantes de ce premier chapitre. Alors, vous formulez un constat de départ, c'est ce qui m'avait Titi intéressé au début. Les approches technocratiques et technosolutionnistes ont vécu, dites-vous. Alors, pourquoi avez-vous choisi une autre voie ? Donc, cette espèce de constat, si ce n'est de l'impasse, ou en tout cas de l'insuffisance des réponses techniques, avec une approche plus transversale, plus globale.
Alors, je crois qu'on suit en fait l'histoire des villes intelligentes, c'est-à-dire qu'au départ, les projets de villes intelligentes étaient portés par des grands géants du numérique, c'est-à-dire IBM, qui a beaucoup travaillé sur la ville de Montpellier.
Début des années 2000, grosso modo.
C'est ça, au début des années 2000, fin des années 90. Donc IBM, Cisco, aujourd'hui on a encore Google, ne serait-ce que lorsqu'on utilise Waze ou d'autres solutions, on voit bien que c'est Google qui est un grand opérateur de la ville, mais Amazon est également un opérateur de la ville. Bon, bref, l'idée c'est qu'on avait quand même beaucoup d'acteurs du numérique qui s'étaient approprié cette notion de ville intelligente, qu'ils ont créée d'ailleurs, la notion de Smart City. Mais aujourd'hui, il y a un retour où les managers publics, les opérateurs, les élus se disent que la technologie n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est la vie des gens.
Ça ne donne pas réponse à tout.
Ça ne donne pas réponse à tout. C'est une brique qui peut être intéressante, par exemple, pour éviter qu'il y ait des fuites d'eau, qu'on puisse mieux gérer l'électricité, enfin l'énergie, qu'on puisse mieux gérer la collecte des déchets, qu'on puisse mieux capter la qualité de l'air, qu'on puisse mieux gérer la mobilité, puisque c'était le premier projet qui a été développé à Montpellier, c'était autour de la mobilité, des tramways et notamment de l'organisation des flux. L'infrastructure numérique peut être intéressante, mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est encore une fois le service rendu aux citoyens, c'est l'amélioration de la qualité de vie, et c'est aussi faire face justement à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire à cette crise de croissance, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir peut-être, et c'est un des propos qui est critiquable et discutable, grâce à un certain nombre d'infrastructures numériques, mieux gérer les choses et mieux gérer cette transformation.
Alors, on va voir ça de manière plus détaillée, avec, en reprenant les chapitres donc, de cette première partie du livre. Alors, il y a 7 ou 8 points, donc un peu de... je fais en sorte de poser des questions courtes, mais ça appelle, vous connaissez l'exercice, des réponses courtes. Alors, un verbal infinitif sert de titre à chaque chapitre, comme autant d'objectifs, d'accompagnement et d'ouverture. Le premier de ces titres, de ces verbes, c'est « protéger ». Que met-il en relief ? Alors, cet impératif de protection.
Protection. Alors, c'est protéger notre milieu de vie, notre environnement, au travers notamment de gestes, de pratiques, d'usages plus respectueux de notre environnement. Et donc, l'une des questions qui est soulevée dans ce chapitre, c'est justement la préservation des ressources, de nos ressources, qui sont de plus en plus précieuses.
L'eau, l'air, les communs que l'on peut avoir, effectivement.
Et c'est, en tout cas, regarder comment on peut mieux gérer les choses, mais là aussi, comment les individus eux-mêmes, en interaction avec leur système, peuvent-ils changer leurs pratiques dans à peu près tous les domaines.
Et avoir donc une place effective.
Voilà, et donc se pose la question notamment de la responsabilité de ces personnes, de ces citoyens dans l'avenir de la planète et dans l'adaptation aux changements auxquels on est confronté.
On va leur faire signe au fil des autres chapitres. Deuxième volet, c'est la question de la fracture numérique qui est abordée. Alors, quel diagnostic est posé ? Bon, il est assez repéré et connu, il apporte beaucoup de gens qui travaillent sur ces questions. Et quel type de réponse votre livre apporte-t-il ?
Alors, la question de la fracture numérique, c'est une question qui est liée à l'insuffisance de performance avec les outils numériques.
Des gens qui, d'une manière diverse, ont du mal avec les outils numériques.
À la fois les plus âgés, mais aussi les plus jeunes.
J'ai découvert ça il y a peu. C'est pas que les histoires de septuagénaires, c'est des jeunes qui ont du mal,
exactement.
Y compris quand il faut faire une démarche administrative qui les concerne directement.
C'est ça, et qui ont des problèmes de littératie numérique, d'électronisme, qui ont du mal à maîtriser les outils numériques. Donc sur Montpellier, il y a des conseillers au numérique, notamment, qu'on a un petit peu accompagnés sur leur mission, justement, pour voir comment on pouvait inclure les utilisateurs, puisqu'on a en face de plus en plus de dispositifs numériques qui sont mis en place, à la fois dans le secteur public, mais aussi dans le secteur privé. Eh bien, l'idée, c'était de faire en sorte d'assurer un minimum de cohésion sociale en incluant dans les utilisateurs dans cette société du numérique. Puisqu'en réalité, on s'aperçoit que le numérique est aujourd'hui un facteur d'exclusion d'une partie de la population.
On peut dire de discrimination. Oui.
Voire même de discrimination, et c'est d'autant plus important dans le secteur public. Lorsqu'on développe des guichets numériques, typiquement, eh bien, on a tendance à exclure, alors qu'on a un objectif clé, un enjeu clé, qui est l'enjeu de l'égalité d'accès à l'ensemble des ressources proposées par la collectivité.
Alors, cette problématique, bien sûr, elle concerne bien des secteurs, beaucoup d'administrations notamment. Mais bien entendu, la mise en œuvre d'une ville intelligente, je dirais équilibrée, réussie, passe notamment par là. Alors la problématique de la conduite de la ville numérique, de sa gouvernance, est analysée dans le chapitre dont le titre peut être lu comme un objectif politique co-créé. Il présente en particulier, ça m'a beaucoup intéressé, la notion de valeur publique. Alors qu'est-ce que c'est que la valeur publique et comment est-elle prise en compte dans la mise en avant, la réalisation de la ville intelligente ?
Alors la valeur publique, c'est une valeur collective qui est proposée à l'ensemble des citoyens, à l'ensemble de la ville, et qui doit être l'un des objectifs des décideurs publics, des élus notamment, c'est réfléchir au type de bénéfices collectifs que l'on apporte à une population en termes de mobilité, en termes de préservation de l'environnement, de biodiversité, ainsi de suite. Donc comment on intègre tout un ensemble de facettes pour créer une sorte de valeur sociétale, sociétale qui concerne tout le monde et qui, en tout cas, répond à un certain nombre d'enjeux
Alors, on connaît la valeur plus de l'économie classique, hein, la valeur produite par les entreprises. Cette valeur publique, on voit en quoi elle se distingue, mais elle se chiffre, elle se détermine. Ses composantes sont repérées ou repérables pour qu'on comprenne de quoi elle est constituée et quelle est, je dirais, son effectivité.
Alors, ce travail a été fait par une collègue. Encore une fois, je ne veux pas m'approprier ce travail-là.
Bon, hein, c'est une quinzaine de chercheurs,
notamment. Oui. Il y a une quinzaine de chercheurs qui ont travaillé là-dessus. Mais l'idée, c'est justement déjà de définir ce dont on parle, savoir ce qu'il est possible de mesurer pour ensuite déterminer des indicateurs qu'on pourrait appréhender auprès de la population ou sur différentes facettes pour mesurer. Au travers d'instruments, cette valeur
ça
publique
pourra rationaliser créée. Ce qui peut apparaître comme un peu flou, je dirais. Donc voilà, ce travail de clarification de cette valeur publique, applicable bien sûr dans d'autres domaines que celui de la ville intelligente, fait partie des, pour ma part en tout cas, d'observateurs de la vie des collectivités, que j'ai trouvé intéressant et utile.
Voilà, mais il faut développer des instruments, effectivement, voilà. De mesure de ces éléments. Il y a un travail à poursuivre. Après ce travail de définition de ce qu'est la valeur publique, il y a un travail à poursuivre pour la mesurer auprès des différents acteurs publics.
Alors, on poursuit dans ce parcours, dans cette première partie du livre. La défense et l'illustration de la ville intelligente transparente prolongent l'approche du développement de la citoyenneté. Ce chapitre fixe le cap, rassuré, et décrit les leviers de l'installation de la confiance entre citoyens et décideurs. Alors, quel est l'enjeu, là, quels sont ces leviers là, que celui ou celle de vos collègues qui a travaillé ce chapitre ont mis en avant ?
Alors, nous avons travaillé à trois avec Anne-Sophie Caz et Audrey Porte sur ce sujet, qui avait fait sa thèse sur la transparence numérique à l'époque, hein, en 2017 ou 2018.
Ah oui, donc il y avait un peu d'avance sur le sujet.
Voilà, donc c'était il y a déjà quelques années. Et la question, c'est effectivement, on veut créer une société de confiance. Or, le numérique, on le sait bien, crée un certain nombre de craintes, de risques tout à fait légitimes, notamment sur les libertés individuelles. C'est l'idée assez controversée d'ailleurs autour de la ville intelligente, de l'idée d'une forme de dystopie avec une ville sous surveillance, pilotée à partir d'hyperviseurs qui contrôleraient nos vies d'une
bien
manière
sûr.
Générale.
Sous et différentes donc, formes, reconnaissance voilà, faciale et autres.
Voilà, et donc il y a cette crainte qui peut être légitime parce que dans un certain nombre de pays moins démocratiques que la France, effectivement, ces outils sont des outils de contrôle social extrêmement fort.
En Chine, notamment, pour qu'ils n'auraient pas compris l'allusion que vous venez de faire.
Voilà, et donc il y a beaucoup de pays où il y a un usage, je dirais, biaisé, et donc voilà, en tout cas pas positif de ces technologies, de ces outils. Et donc là, l'idée, c'est de voir comment, dans une démocratie, la transparence peut se mettre en place. Jusqu'où on doit être transparent, puisqu'on voit bien que tout dire, notamment sur la collecte de données, n'est pas forcément un élément qui va générer la confiance, mais va plutôt générer de la suspicion. Et donc, il faut arriver à savoir ce qu'il est nécessaire de dire, comment le dire, avec quel cadrage de l'information on doit le faire. Et donc, il y a pas mal d'initiatives qui ont été prises dans la ville d'Angers ou ailleurs, justement, pour expliquer là où les données sont collectées, comment elles sont utilisées, à quoi elles servent concrètement. Et cette transparence-là est plutôt louable.
Mais est-ce qu'un autre volet de cet aspect des choses, qui est la confidentialité impérative d'un certain nombre de données ou de faits, de pratiques liées à la mise en œuvre de la ville intelligente qui sont aussi, font partie d'une problématique, si ce n'est identique, en tout cas voisine.
Alors,
nécessaire confidentialité, comme alors, on le dit dans d'autres secteurs, hein, oui. Je m'accorde la sécurité publique par exemple, ou la question d'une part de confidentialité. Et qui échappe au regard, y compris d'ailleurs un certain nombre de cas, au regard des parlementaires, par exemple, sur des sujets comme ça très sensibles.
Oui, alors, une bonne partie des données de la ville intelligente ne sont pas des données individuelles. Bon, si oui. Je parle de, je sais pas, identifier les fuites d'eau dans, oui, dans une canalisation, ce ne soient pas des données individuelles. Après, il peut y avoir des données individuelles, effectivement, et on a la chance quand même en Europe d'avoir le RGPD, le Règlement Général sur la Protection des Données, ou le Digital Act, où aujourd'hui il y a des nouveaux textes sur l'IA.
Des dispositions généralement européennes.
Voilà, ce sont des dispositions européennes.
La France a obligation d'appliquer, qui protègent.
Qui nous protègent,
voilà,
oui.
Qui nous protègent. Voilà.
Et c'est l'un des enjeux actuels autour notamment de ce qu'on appelle la souveraineté numérique, c'est s'assurer de garder le contrôle sur les données au sein de l'Europe. Et éviter que nos données partent sur des serveurs partout et soient exploitées indûment par des acteurs qui ne sont peut-être pas aussi bienveillants que ça sur les données que l'on collecte. Donc il y a un enjeu qui est crucial, on le voit bien sur un plan géopolitique, c'est cette idée de souveraineté numérique, c'est de pouvoir capter des données, mais aussi de pouvoir les conserver, les protéger et les utiliser à bon escient.
Alors ça me semble une réponse à une inquiétude qui me semble à la fois fondée dans son principe et probablement justifiée dans un certain nombre de cas. Et donc pour le coup, l'avancée en bon ordre, je dirais encore que le mot ordre ne soit pas tout à fait le bon, dans la bonne direction, je dirais, de la ville intelligente, passe par là, par la prise en compte de cette préoccupation et donc notamment en pointant les leviers de la création et de l'activation de la confiance. Alors dans le livre, c'est levier, c'est la limpidité de l'information, on parle d'information, l'objectivité et l'ouverture, c'est-à-dire le donner à comprendre, si j'ai bien compris, en quelque sorte, de la posture que les décideurs, principalement publics, mais peut-être aussi privés, doivent avoir en la matière.
Oui, donc la limpidité, c'est l'idée de donner l'information qui est nécessaire, qui est intelligible, contextualisée, qui permet aux personnes de comprendre ce qu'il se passe. L'objectivité, c'est dire les choses de manière objective. C'est-à-dire qu'il peut y avoir effectivement dans les dispositifs technologiques à la fois des choses positives ou des choses négatives. Donc il faut pouvoir le dire, l'affirmer. Et puis ensuite, l'ouverture, c'est l'idée aussi de donner accès à tous à cette information sur les pratiques qui sont mises en place à l'échelle des villes, à la fois en collecte de données, en exploitation de données et ensuite en utilisation de ces données, c'est-à-dire à quel type de service ça va donner lieu. Et donc là, encore une fois, plus de transparence ne ferait pas de mal. Je crois que pendant très longtemps, les projets de villes intelligentes, même si ils sont en cours de développement dans toutes les villes et toutes les métropoles du monde, n'ont pas fait l'objet de beaucoup d'attention, ni des médias, ni des citoyens, ni de personnes, parce que on craignait justement que ça génère beaucoup de suspicions, beaucoup de craintes sur une société de surveillance. Et donc, ce n'est pas forcément extrêmement porteur sur un plan politique ou sur un plan managérial.
Donc, une espèce de, je sais pas, de timidité ou de prudence, de ne pas prêter le flanc à si ce n'est des questions, du moins des critiques, y compris des critiques irraisonnées ou non fondées.
Oui, voilà. Donc, il y a le risque, effectivement, que chacun s'en saisisse à des fins politiques, notamment pour remettre en cause donc les choix qui ont été faits.
Alors, on progresse là. Sous le titre « Impliqué, la question très sensible de l'acceptabilité sociale de l'innovation est traitée », parenthèse, cette question, elle vaut aussi pour les changements liés aux réponses au dérèglement climatique. Est-ce qu'il y a une difficulté particulière? En tout cas, cet enjeu de traiter l'acceptation sociale fait partie aussi des points déterminants.
Donc l'acceptabilité sociale aussi, puisqu'on voit bien que chaque innovation n'est pas neutre, qu'elle peut avoir des conséquences, des incidences sociales, économiques, culturelles. En tout cas, il y a des impacts très forts de ces innovations, pas seulement numériques, mais de toutes les innovations, puisque la ville intelligente, c'est une ville qui innove, qui change, qui se modifie, qui se transforme. Et donc, forcément, avoir l'assentiment, le consentement de la population est un élément clé, sinon les conséquences, ne serait-ce qu'économiques, sont très lourdes si on a des populations qui s'opposent aux transformations que l'on propose. Donc l'idée, c'est finalement d'être dans une sorte de dialogue continu, une conversation continue avec la population, justement pour qu'on ait moins de points de blocage tels qu'ils peuvent apparaître régulièrement lorsqu'on prend des décisions publiques.
Alors, dernier point donc, de ce parcours, dans la première partie du livre, C'est la dernière volet, c'est informer. Alors, il a déjà été question d'information. Elle se penche notamment sur l'inquiétant phénomène des fake news, fausses nouvelles et autres formes de désinformation. Alors, même type de question, quel est l'enjeu des fake news pour que la réalisation de la ville intelligente avance bien?
Alors, ça rejoint le point que je viens d'énoncer, c'est-à-dire que si on veut innover, il faut qu'on puisse discuter tranquillement, sereinement, de manière relativement objective de ce qu'est l'innovation, de ses incidences, de la manière dont ça peut à la fois avoir des externalités positives, des conséquences positives sur nos vies, mais aussi parfois des externalités négatives, puisque rien n'est à 100% positif. On ne peut pas avoir de vision binaire de ces innovations. On ne peut pas prêter le flanc à tout un ensemble de personnes qui ont tout intérêt justement à produire de la fausse information, à créer des controverses autour de toutes les innovations pour plein de raisons, hein, parfois bonnes, parfois aussi très mauvaises, voire manipulatoires. Et donc, je crois que c'est là aussi où l'université, c'est notre rôle, c'est de regarder, enfin, d'interroger, de débattre, de garder toujours un esprit critique sur ces différents sujets. On n'est pas là pour faire la promotion d'une technologie ou même de la ville intelligente. Moi, je ne suis pas un promoteur de la ville intelligente. Je suis simplement un observateur de cette ville, la manière dont elle se transforme. Mais en même temps, il faut qu'on puisse lutter contre des gens qui n'ont pas forcément de bonnes intentions ni une véritable objectivité dans le traitement de ces questions.
Très bien. Alors, gardez l'esprit critique, avez-vous dit. Vous le dites pour vos collègues, pour les chercheurs qui gardent cette poursuite, mais ça vaut bien sûr pour chaque citoyen, chaque habitant, hein, comme nous le savons. Mais vous nous avez permis de garder ça en mémoire. Je vous remercie, Monsieur Nguel.
Merci beaucoup, Monsieur Daudiès.
Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis Montpellier-Rennes, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Sérop.
Donc vous êtes une Montpellier-Rennes, une pure jus.
Bah, Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.